Le bonhomme La Fontaine par Jules Chancel. Celui qui a conquis dans l'histoire le titre de bonhomme et qui s'était acquis déjà parmi ses contemporains la sympathie que confère cette appellation n'est rien moins qu'une de nos gloires littéraires les plus pures. La Fontaine naquit à Château-Thierry le 8 juillet 1621. Son enfance n'offre rien de remarquable. Elle fut heureuse et nonchalante, car son père, excellent homme d'ailleurs, et qui exerçait la charge de maître des eaux et forêts, s'occupa d'abord assez peu de ce petit garçon. Il se contenta de le mettre en pension chez le maître d'école de son village, et les mémorialistes s'accordent à dire que cette instruction fut plutôt négligée. Pouvait-il en être autrement, d'ailleurs, avec un élève distrait, insouciant, paresseux, rêveur comme l'était le petit Jean? À l'âge de 19 ans, il entra dans la congrégation de l'oratoire, mais en sortit bien vite au bout de 18 mois à peine. L'abbé Olivet constate « Quand on aura vu ce qu'était l'homme qu'on avait prétendu assujettir aux règles d'une congrégation religieuse, on ne sera pas en peine de savoir pourquoi il en était sorti. » Le voilà donc de retour à Château-Thierry, plus rêveur, plus musard que jamais. Ses compatriotes disaient de lui « C'est de la graine de bon à rien. » Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que cette prédiction se serait peut-être réalisée si un beau jour, un officier en garnison à Château-Thierry, en compagnie duquel Jean de La Fontaine humait le piau le soir à l'auberge, ne s'était avisé de lire en sa présence l'ode de Malherbe sur l'assassinat de Henri IV. Dès cet instant, Malherbe fut la lecture favorite du futur poète. Bientôt, il ne se contentera plus de l'apprendre et il essaiera de l'imiter. Il comprit cependant bien vite que sa nature était de celles qui ne doivent pas se contenter d'imitation, et après Malherbe, il découvrit Rabelais et enfin Marot, dont il perfectionna l'élégant badinage. Contrairement à l'habitude qui veut qu'un père voie sans enthousiasme son fils attiré par la carrière littéraire, Jean de La Fontaine fut encouragé par le sien lorsqu'il lui donna connaissance de ses premiers essais devant un aéropage composé de membres de sa famille et d'un ami lettré nommé Pintrel. Ce Pintrel sut lui donner d'utiles conseils, entre autres celui d'étudier les anciens, Terence, Horace, Virgile, Quintilien. Le jeune poète écouta si bien ses sages avis qu'il lisait Tite-Live jour et nuit avec un tel acharnement qu'au cours d'un voyage il laissa repartir la diligence tant il était absorbé par sa lecture. Quelque flatté que fût le père La Fontaine de voir son fils cultiver les lettres et la poésie, il estima que le métier de poète ne suffisait pas à alimenter l'activité d'un jeune homme et prétendit lui donner un état. Il se rendait compte du peu d'enthousiasme que montrait son grand fantaisiste de garçon pour toute entreprise autre que la rêverie, et en excellent père qu'il était, il résolut de faire passer sur sa tête sa charge de maître des eaux et forêts. Le jeune La Fontaine accepta la charge avec tranquillité. Son père voulut le marier. Avec la même indifférence paisible, il accepta la femme qu'on lui présenta. C'était une certaine demoiselle Héricard, qui était, paraît-il, belle, aimable et spirituelle. La Fontaine lui-même lui reconnaît ses qualités, mais elle ne l'empêche nullement de quitter sa femme, car ce grand fantaisiste n'était décidément pas plus bâti pour la vie conjugale que pour la vie religieuse. Il quitta sa femme, mais il resta cependant avec elle dans les meilleurs termes et de temps en temps venait lui faire visite. Il est vrai que ses visites étaient surtout motivées par la nécessité de vendre, de conserver qu'elle, quelques pièces de terre ou quelques maisons. Racine, le fils, raconte cependant un curieux trait de jalousie de ce mari, à l'ordinaire si indifférent. L'un des visiteurs les plus assidus du salon de Madame de La Fontaine était un capitaine de dragons nommé Peignan. Certes, La Fontaine ne se serait jamais occupé de ce militaire, si quelque bonne âme n'était venue lui dire que son honneur de mari exigeait qu'il mît fin aux assiduités de Peignan. Le bonhomme tient compte de cet avis, et un beau matin, au petit jour, il tombe à l'improviste chez Peignan, qu'il force à se lever en lui disant « Il faut que je me batte avec vous. On m'assurait que je ne pouvais m'en dispenser. Venez tout aussitôt. » L'officier, ahuri, suit cet enragé, qui est à peine arrivé sur le terrain, met l'épée à la main. Peignan, forcé de se défendre, fait sauter cette épée d'un revers et peut enfin entrer en pourparler avec son adversaire. Il lui jure qu'il ne mettra plus jamais les pieds chez sa femme. « Au contraire, » lui répond vivement La Fontaine, « j'ai fait tout ce qu'on a exigé de moi, mais maintenant j'exige que vous soyez plus assidu que jamais. dans la maison de ma femme. Si vous ne l'êtes pas, nous nous battrons de nouveau. » Impossible de se fâcher avec un semblable humoriste. Aussi la réconciliation fut-elle complète entre les deux adversaires. Selon la coutume du temps, il fallait à La Fontaine pour réussir un protecteur choisi parmi les hauts personnages. À cet effet, on présenta le poète à la duchesse de Bouillon, qui l'accueillit avec faveur, car elle appréciait son imagination vive et enjouée. La légende veut même que ce soit cette grande dame qui lui suggéra l'idée de ses premiers contes. Toujours est-il qu'elle assura son poète un appui fidèle, puisque celui-ci passa dans sa maison les 30 dernières années de sa vie. Cette amitié ne l'empêcha pas de se faire présenter par un de ses parents au surintendant Fouquet, qui affectait une prédilection particulière pour les hommes de lettres et leur prodiguait pensions et bénéfices. Il donna à La Fontaine mieux encore qu'une pension, car il lui fournit l'occasion de prouver sa grandeur d'âme et sa fidélité au malheur. En effet, quand Fouquet connut la disgrâce royale et la prison, La Fontaine ne l'abandonna pas. Il adressa à Louis XIV sa fameuse élégie aux nymphes de Vaud, dans laquelle il demandait bravement au roi la grâce de son bienfaiteur. Privé de la protection de Fouquet, La Fontaine en trouva une plus éclatante dans la plus aimable princesse de la cour de Louis XIV, Madame Henriette d'Angleterre, qui lui donna dans sa maison une charge de gentilhomme ordinaire. Hélas, il perdit bientôt cette nouvelle protectrice, mais La Fontaine était de ces heureux mortels que tout le monde se dispute l'avantage de posséder. Le prince de Conti, le duc de Vendôme, le duc de Bourgogne surent, par leurs bienfaits, préserver le poète de cette indigence qui, certainement, se serait abattue sur lui s'il avait été livré à lui-même. Malgré tous ses appuis, La Fontaine retombait toujours dans de nouveaux embarras. Il fallut une femme aimable et généreuse comme Madame de la Sablière pour l'en affranchir et lui assurer quelques années d'une vie facile et heureuse. La Fontaine, grâce à cette protection, put composer ses plus beaux ouvrages dans le calme et la tranquillité d'esprit. Quant à Madame de la Sablière, un modèle peindra mieux que n'importe quel discours le genre de relation qu'elle entretenait avec son poète. Elle venait de congédier tous ses domestiques. « Je n'ai gardé avec moi, dit-elle, que mes trois animaux, mon chien, mon chat et La Fontaine. » Mais si cette aimable femme s'était chargée du bonheur du poète, celui-ci à son tour se chargea de sa gloire en la nommant dans plusieurs de ses œuvres et en les lui dédiant. Les portes de l'Académie ne s'ouvraient alors, même aux écrivains les plus illustres, que dans l'âge très mûr et même la vieillesse. La Fontaine avait 62 ans. Il avait publié ses fables, tous les ouvrages auxquels il devait sa gloire, et il jugea pouvoir poser sa candidature à la succession de Colbert. Boileau fut son concurrent, et le fabuliste l'emporta contre lui au grand dépit de Louis XIV, qui prisait davantage le critique officiel que le licencieux auteur des contes. Aussi le roi ne s'empressa-t-il pas de donner son agrément à cette élection. On a reproché à Louis XIV d'avoir méconnu le mérite de La Fontaine. Il est certain que le poète fut tenu à l'écart de toutes les grâces officielles, mais cette hostilité royale n'empêcha aucunement les esprits les plus élevés et les plus grands seigneurs du temps de lui témoigner leur admiration. Racine aimait La Fontaine et se plaignait quand son négligent ami le laissait sans nouvelles. Molière était également plein d'estime pour lui. Fénelon chante ses louanges dans sa lettre à l'Académie. En un mot, ce délicieux écrivain fut toujours entouré d'amis nombreux et dévoués. En 1692, Madame de Mazarin et quelques Anglais notables essaient d'attirer le bonhomme à Londres. Il refuse, car cet observateur professait que les sujets d'observation sont en abondance suffisante partout, sans qu'il soit nécessaire de voyager et de se donner de la peine pour en trouver. Peu de temps après, il tombait gravement malade et cette maladie occasionna dans son caractère un changement profond. Il devint religieux, se mit à lire les livres saints, et déclarait à son confesseur que le Nouveau Testament était décidément un fort bon livre. Sa conversion se traduisit par une amende honorable, publique, pour le scandale qu'avaient pu occasionner ses écrits et surtout ses contes. Afin de racheter ce scandale, il avait même découvert un moyen assez inattendu. C'est ainsi qu'un jour il annonça à son confesseur « Monsieur l'abbé, j'entends vous donner pour votre église le produit de la prochaine édition de mes contes que va faire sous peu mon libraire. » L'abbé eut toutes les peines du monde à lui faire comprendre que cette excellente intention n'était peut-être pas celle qui convenait le mieux pour racheter le scandale qu'avaient pu causer ces fameux contes. Aussi La Fontaine jura que dorénavant, il consacrerait uniquement son travail à des sujets de piété, et il écrivait aussitôt une paraphrase du Dies Irae et d'autres œuvres du même genre. Ses ouvrages pieux ne lui rapportaient pas grand argent. Le vieillard se voit chassé de sa maison. Cette fois encore, ses amis ne l'abandonnent pas et l'un d'eux, M. Dervard, se rendait à son domicile pour lui offrir un logement chez lui quand en route il rencontre le bonhomme dans la rue. « Venez loger chez moi, » lui dit-il. « J'y allais, » répond tranquillement La Fontaine. Le poète trouvera dans cet asile pour ses derniers jours toutes les douceurs qu'il avait reçues pendant 20 ans chez Madame de la Sablière. D'ailleurs, cette hospitalité fut assez courte, car le 13 avril 1695, le bonhomme mourait paisiblement comme il avait vécu. À jamais célèbre par son génie et ses ouvrages, La Fontaine l'est aussi par sa bonhomie, la simplicité de son caractère et la naïveté délicieuse de sa manière de vivre. On reste charmé par le contraste piquant de ce talent qui produisit des chefs-d'œuvre et cette balourdise apparente qui semblait le placer au-dessous du commun. La Bruyère va jusqu'à dire qu'en société, il paraissait lourd, grossier et stupide. Racine confirme cette opinion. C'était, a-t-il écrit, un homme fort malpropre et fort ennuyeux. On s'explique mal devant ces témoignages que le bonhomme était aussi recherché par les hommes les plus éminents et les femmes les plus spirituelles de son temps. D'ailleurs, s'il n'était pas souvent aimable en société, il n'y était en tout cas jamais gênant, et on ne pouvait qu'avoir de la sympathie pour sa délicieuse bonhomie. Il n'exigeait pas qu'on s'occupât de lui, mais il fallait lui permettre aussi de ne jamais s'occuper des autres et le laisser en paix continuer ses rêveries éternelles. Les anecdotes sur ses distractions sont innombrables, en voici deux. Invité à dîner chez un financier qui était flatté d'avoir à sa table un homme de son mérite, il dîne fort bien, puis, à la dernière bouchée, il annonce qu'il s'en va. Il y a, dit-il, séance à l'académie et j'y vais. Mais vous êtes en avance, je prendrai par le plus long. Ses amis, au moment de sa conversion, lui persuadèrent qu'elle ne serait pas complète s'il ne se réconciliait avec sa femme. On l'embarque pour Château-Thierry afin de négocier le raccommodement. Arrivé dans cette ville, il va sonner à la porte de sa maison. Un domestique lui répond que madame est au salut. Il se rend chez un ami, y soupe, y couche et repart le lendemain matin. Revenu à Paris, on s'informe de son voyage. « Je n'ai point vu ma femme, dit-il, elle était au salut. » La légende veut que, rencontrant un jour un de ses fils dans le monde, il demanda « Quel est donc ce jeune homme? Il est charmant. » On le présente au roi. Il avait préparé pour cette entrevue une pièce de verre, mais quand il va la remettre à sa majesté, il l'avait oubliée. Telle fut La Fontaine, originale dans son caractère comme dans son génie, n'ayant rien inventé peut-être, car il a imité les autres, mais devenu inimitable en les imitant. Il ne prit jamais grand-chose au sérieux, même pas lui-même, car il s'intitulait un simple papillon du Parnasse et écrivait « Je suis chose légère et vole à tout sujet. J'irai plus haut, peut-être, au temple de mémoire, si dans un genre seul j'avais usé mes jours. Mais quoi, je suis volage en vers comme en amour. » Il avait vu juste, car cette chose légère a en effet volé très haut au temple de mémoire. Ainsi s'achève Le bonhomme La Fontaine par Jules Chancel.